Bonjour. Bonjour, bienvenue pour cette matinée de rencontres littéraires. Et avant de céder la parole à Jacques Aubergy, notre spécialiste, que je tiens à nouveau à remercier pour sa remarquable façon de modérer les débats littéraires, je vais vous saluer, d'abord vous remercier vous aussi, remercier le public Biarro et au-delà. Nous savons que c'est un public très très fidèle, très attaché aux rencontres littéraires. Saluer monsieur le consul d'Espagne à Bayonne pour une rencontre exceptionnelle. Alors, c'est très délicat pour moi de dire rencontre exceptionnelle en présence de deux écrivains sur un autre écrivain dont ils vont parler. Donc, je ne vais surtout pas parler des deux écrivains qui sont ici parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, d'après ce qu'on m'a dit. Sinon, il y aurait des heures et des heures à parler sur donc, Antonio Muñoz Molina, Juan Carlos Mondragón. Donc je tiens à les remercier, merci beaucoup d'être venus. Ils sont un peu le symbole, hein. Il y en a un qui est à Madrid et l'autre qui est en France. Je ne sais pas si c'est la symbolique ou la parabole de l'itinéraire de Onetti entre Madrid, l'Uruguay et l'Europe. Voilà, donc vous remercier et vous dire que nous sommes très très heureux de pouvoir aujourd'hui compter sur la présence de deux grands écrivains uruguayens, espagnols, mais au-delà écrivain de toute la sphère ibéro-américaine et même au-delà, nord-américaine éventuellement, pour quelqu'un qui connaît bien les États-Unis. Les remercier pour accepter de modérer donc ce débat sur un grand, grand écrivain, à mon sens, injustement méconnu, mais pour des raisons qu'ils expliqueront mieux que moi. Je ne dis pas inconnu, j'ai dit injustement méconnu. Il y a une nuance. Voilà. Merci beaucoup, muchas gracias. Et ils acceptent de faire le débat en français, donc on les remercie à nouveau.
Gracias, Serge. Gracias por las flores. On va parler en français, puisque de toute façon, il n'y a pas d'interprète. Donc, on est obligé de parler en français. Et puis, ils parlent tous les deux parfaitement français. Antonio Muñoz Molina l'a appris au lycée de Granada.
D'Úbeda.
Úbeda, pardon. Úbeda, bien sûr, oui. Bien sûr, Úbeda. C'est pas très loin, mais c'est Úbeda. Alors, Juan Carlos Onetti, je dois dire que je suis le coupable. C'est moi qui ai insisté auprès de Lucille de Calan pour qu'on fasse cet hommage. On a déjà fait un hommage à des écrivains disparus, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Mais là, c'était quelque chose, puisque l'Uruguay était l'invité, le focus, il m'a paru absolument indispensable, imprescindible, de faire cet hommage. Bon, Lucille, sur le coup, n'a pas... Et puis quand, je ne sais pas, je crois qu'elle a peut-être un peu hésité, puis quand elle a reçu l'écho de ses partenaires uruguayens, elle n'a plus hésité du tout, et elle m'a dit « c'est bon ». En plus, il y avait une illustration cinématographique qui est le documentaire Jamás leí a Onetti, tout un programme, je n'ai jamais lu Onetti, que je vous engage à aller voir cet après-midi puisqu'il repasse à 18h au Royal 3. Et Antonio Muñoz Molina il participe à ce film. Alors, Juan Carlos Onetti, je dois vous dire que moi, je ne peux pas dire que je n'ai jamais lu Onetti parce que je le lis presque tous les jours. Ma femme, un jour, un peu agacée, m'a dit qu'on faisait ménage à trois, Onetti, elle et moi. Bon, je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort. Et donc, je me suis dit, comme je vous disais, que c'était vraiment l'occasion rêvée d'en parler. Mais je dois dire aussi que je pourrais dire « je n'ai jamais compris Onetti » ou « je ne suis pas sûr d'avoir toujours compris Onetti ». C'est une écriture très particulière, c'est un personnage très particulier, et donc j'ai pensé que c'était intéressant de commencer en disant comment on est arrivé à Onetti. Bon, je vais faire ça très vite en ce qui me concerne, c'était à la fac, à Aix, un lecteur argentin d'espagnol qui nous... parler de civilisation et littérature argentine et qui nous a mis Onetti entre les mains. Moi, j'avais déjà fait d'autres études universitaires, j'étais un peu plus âgé, mais les tout jeunes avaient été un peu désarçonnés, même les hispano-hablantes, il y en avait encore, descendants d'Espagnols républicains, descendants et descendantes. Et le contact a été terrible, parce que je ne comprenais rien, mais j'ai eu cette impression que l'on a, lorsqu'on goûte quelque chose, je pense par exemple au fino, le fino de Jerez, qui choque, mais on se dit, il doit y avoir quelque chose. Et après, en s'efforçant, en insistant, on commence à trouver un goût agréable, on commence à trouver des choses. Et c'est ce qui s'est passé avec moi pour Onetti. Alors, Juan Carlos, si tu veux nous dire ce qui s'est passé pour toi.
Oui, bien sûr. Merci pour être là. Et je remercie aussi à l'organisation du festival de nous avoir invités. Et surtout à Antonio de participer à cette expédition pour parler quelques minutes sur un auteur qu'on aime, qu'on a suivi depuis des années. Bon, pour moi, ce n'est pas un problème de compréhension, sinon de croyance. Follner disait sur Ulysse qu'il fallait les lire avec de la foi. Voilà, c'est ça, on croit. Et après, on se laisse aller. Pour comprendre, on a la sociologie, le journalisme, l'histoire. Mais pour vivre un choc esthétique, émotionnel et intellectuel, on a le clavier bien tempéré, Don Giovanni, les derniers quatuors de Beethoven. Voilà, c'est ça. Ce sont des expériences différentes. Et l'œuvre d'Onetti rentre dans ces catégories. Ce n'est pas une réflexion mimétique, ce n'est pas une explication de texte de la réalité uruguayenne, sinon que c'était un voyage à l'essence de notre histoire, de notre pays et au-delà, et de la langue espagnole aussi. Pour moi, c'était bon, très tôt, au niveau des collèges, j'ai lu ce premier texte, ce premier conte, ce premier nouvelle, et voilà, et on était les deux là-bas. C'est-à-dire que j'étais dans les champs magnétiques de Juan Carlos Onetti, que c'est très difficile. Mais on avait un grand écart d'âge, évidemment. Je n'ai pas eu ni l'intention ni le courage de le rencontrer. Et surtout, c'était de trouver dans son roman, dans la littérature et dans l'écriture, le lieu de la mémoire de mon enfance. Et là, c'est le premier choc. Après, j'étais très attiré pour la littérature du boom, les Paris de Cortázar, Aracataca, Comala, Mexique et tout ça. Mais finalement, j'ai fait un retour en Onetti parce que c'est mon histoire à moi, que c'est évidemment c'était la plus importante. Et entre le boom et la littérature de Montevideo, je choisis la littérature de Montevideo. Après, il y avait une deuxième partie qu'il fallait, au moment d'écrire ou de tenter la fiction, je devais faire avec Onetti et contre Onetti. Alors là, et Onetti, il a une espèce de capacité de pétrifier les écrivains. Si on essaye de faire une approche mimétique, si on a envie de faire un autre Dias Gray, ou si on a envie de faire une autre Santa Maria, comme dit les poètes, j'ai vu les meilleurs cerveaux de ma génération tomber pétrifiés devant l'œuvre de Onetti. Alors, j'ai profité de ma condition de prof de littérature et j'ai fait le chemin de tournée. Je suis passé pour la vie universitaire. Je l'ai pris comme un objet d'étude. Et à partir de là, ça c'est une thérapie qui a duré quelques années. Et à la fin, j'ai sorti soulagé, tranquille. Il m'a dit, j'ai compris Onetti, il m'appartient et je vais trouver mon propre chemin. Et ça a été une expérience formidable. C'était plus qu'une expérience de lecture, une expérience de vie, non? Et à partir de là, il m'accompagne dans chaque opportunité que je trouve de parler sur ce personnage, plus que le personnage, sur ce texte. Finalement, et c'est le plus important. Et voilà, j'essaye d'être présent.
Merci. Antonio.
C'est intéressant la différence, non, là, parce que ça nous montre les différents niveaux de la littérature. Non, Juan Carlos a connu une étude du point de vue de quelqu'un qui est né dans le même pays, même dans la même ville. Non, et il reconnaît Montevideo. Dans mon cas, c'est absolument le contraire, parce que je viens de l'Espagne et de l'Andalousie, donc je n'avais pas aucun rapport naturel avec le monde en Haïti. Je me souviens d'avoir découvert un Haïti par chance, parce que à la télé en Espagne, c'était l'année 75, je crois, j'étais un étudiant à l'université et j'avais cette vocation de devenir écrivain, mais je ne trouvais pas mon chemin. On cherche, mais c'est très difficile de trouver ton chemin, ta voie. Et absolument par chance, j'étais chez mes parents à Úbeda et j'ai vu dans la télé un entretien avec un écrivain de qui je ne savais rien. J'ai mis la télé et il y avait cet homme qui parlait dans un entretien et je ne savais rien de lui, je ne savais son nom, je ne savais rien. C'était cet homme de peut-être de 60 ans, plus ou moins, non, qui parlait très doucement, très lentement, et qui parlait d'écrire d'une façon que je n'avais jamais écouté parler. Parce que c'était si différent du modèle habituel des écrivains espagnols. Non. Les écrivains espagnols étaient si formels, si autoritaires dans son sens. Non. Vous devez penser qu'un modèle d'écrivain en Espagne était Camilo José Cela, non? Et pour nous, pour ma génération, c'est un point très important parce que pour ma génération, on s'est révélé contre ce modèle de l'écrivain. Le modèle de l'écrivain qui appartenait au système, qui était comme une personne du gouvernement. Il y avait quelque chose d'officiel et d'antipathique, profondément antipathique. On ne voulait pas être un écrivain comme ça. Donc, je trouve cet écrivain qui parle doucement et qui dit que pour lui, écrire, c'est une espèce de vice, qu'il écrit dans la nuit, qu'il boit, qu'il fume des cigarettes et qu'il écrit et que sa femme prend le petit papier qu'il a écrit et sa femme les rassemble. Et il parlait avec cette passion, cette espèce d'innocence, non, avec cette pureté, si l'on peut dire comme ça. Non, et j'étais instantanément transformé par écouter cet homme. Mais je n'avais lu rien de lui. Donc l'influence a été antérieure à la lecture. Non, et je devais trouver quelque chose à lire de cet écrivain, parce que je voulais devenir comme lui. Et je trouvais par chance de son roman, de ses histoires, parce que autant c'était difficile de rencontrer des livres d'Onetti en Espagne. Il y en avait publié, mais pas tant de livres. Non. Et j'ai commencé à lire Onetti comme ça. Non. Les contes, les romans, le premier roman. Je me souviens d'avoir volé un livre d'Onetti à la librairie de quelqu'un. J'ai visité une maison et il y avait je racontais ça dans mon livre. Non. Parce que c'était si difficile de trouver le livre qu'on devait le voler. Donc, je volais l'astillero, le chantier, non, et même encore, j'ai le livre, l'exemplaire que j'ai volé, je le conserve. Non, c'est comme ça que c'est une. Je pensais que pour un écrivain, pour quelqu'un de ma génération, on est né pendant le franquisme, mais on avait cette réaction contraire, cette rébellion contre tout ce que le franquisme représentait. Non seulement politiquement, mais aussi littérairement, esthétiquement. Non, et pour nous, pour ma génération, les écrivains latino-américains, c'était comme une liberté. C'était de trouver une autre façon d'écrire dans notre langage. C'était la langue espagnole. C'est toujours la langue espagnole. Mais c'est une langue espagnole avec une musique tout à fait différente. C'est une libération. Pour nous, les Espagnols, les jeunes Espagnols, lire des écrivains latino-américains, c'est une libération linguistique, si l'on peut dire comme ça. Non.
Merci. Alors, je vais lire la note qu'ont écrite François Delprat et Jean-Marie Le Mogodoc dans un livre qui s'appelle « Littérature de l'Amérique latine » que je vous engage, si vous êtes passionné, ce qui est votre cas, par la littérature latino-américaine et qui est chez Elcar, sur Juan Carlos Onetti, fondateur avec Felisberto Hernández de la narration uruguayenne contemporaine. Juan Carlos Onetti, romancier et conteur né à Montevideo, n'a obtenu que sur le tard la reconnaissance internationale Prix Cervantes en Espagne en 1980. En rupture avec la tradition littéraire de l'époque, il incarne une marginalité consciente qui ne fait pas prévaloir l'engagement social et considère la littérature comme une fin en soi. L'opposition de cette nouvelle sensibilité littéraire a beaucoup à voir avec la fondation de l'hebdomadaire Marcha dans les années 30, dont Onetti sera rédacteur de 1939 à 1941. Alors, on va maintenant rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, dans l'œuvre, parce qu'on va éviter de parler du personnage qui souvent tourne à l'anecdote, voire à la caricature, et qui est une espèce de trahison, je crois, du personnage et de l'œuvre. Vous pourrez vous en rendre compte cet après-midi avec le film. L'œuvre, c'est la ville, par exemple, entre autres choses. C'est les villes. C'est Montevideo, bien sûr, c'est Buenos Aires, où il a vécu longtemps, et c'est Santa Maria, qu'il a inventé. Juan Carlos.
Oui, tu as raison, ce sont les trois villes. La première, Montevideo, c'est le départ, c'est les origines de tout l'ensemble de l'œuvre. Et finalement, la chose plus claire, parfois je sens qu'on est type plus que montevidien, comme rioplatense, parce qu'on ne peut pas échapper à ça. No? On a, heureusement, pour Montevideo, Buenos Aires est à côté, et vice-versa. Et on a un lien des deux villes de la même manière que, je ne sais pas bien, Prague, Milan, Trieste, ou Paris et Bruxelles. Ce sont deux villes qui sont proches et il y a un contact intense. Juan Carlos Onetti, il a vécu à Buenos Aires et là, il a fait la découverte de la ville. Et, bon, et on peut dire qu'en rupture d'une littérature traditionnelle naturaliste, il a commencé à écrire les romans de métropole, qui l'associait complètement à la modernité. Mais évidemment, si vous voulez, il ne pouvait pas oublier, évidemment, Montevideo, qu'il y a une tradition très spéciale, Montevideo, dans l'ensemble de la vie culturelle. No? C'était l'origine, si vous voulez, à partir de Bartolomé Hidalgo, de ce qu'on appelle la littérature gauchesca. Voilà, ça a commencé là-bas. On a une discussion sur les origines du tango et on est au milieu de la discussion. On trouve aussi de quelle manière les rythmes afro del sur, les candombés, sont nés aussi dans les côtes de Montevideo. Et surtout pour la tradition française et pour les basques d'à côté, surtout de Tarbes. Oui, ici aussi. Voilà, on a eu les trois écrivains, Isidore Ducasse, Jules Laforgue et Jules Supervielle, qui c'est un cas unique dans la littérature de l'Amérique latine, et les rapports productifs d'une langue, c'est-à-dire que quand l'autre amant rentre à Paris, il avait 20 ans, 21 ans, il fait le texte Le Chant de Maldolor, qui, à mon avis, c'est le texte de la modernité, no? Par excellence. No? C'est l'inauguration de la modernité. Alors je dis, un écrivain, c'est bien. Deux, c'est l'hasard. Trois, c'est le système. Alors, il y a une espèce de système, d'imams montevidiens qui a nourri tous les écrivains qui viennent après, surtout Onetti. C'est pour ça qu'Onetti, il est à la fois l'expression de Montevideo, mais aussi une recherche de la modernité à partir de la littérature urbaine de Buenos Aires. Et surtout, il fait deux incorporations dans la littérature du Rio de la Plata et même dans la littérature en langue espagnole. Que c'est ici un lecteur de Follner et c'est pour ça qu'il croit Santa Maria comme l'expérience, je peux l'appeler comme ça, del troisième royaume, non? C'est ça, entre ma intériorité, mes fantasmes, mes mandats d'écrire et la réalité, il y a un troisième royaume qui se fait à partir de l'écriture, qui c'est la ville de Santa Maria. Et après, il y a une autre lecture plus secrète, plus souterraine, que c'est la lecture de Céline, et qu'elle dit, voilà, si vous voulez savoir pourquoi mon héros c'est un médecin, et pensez au docteur de Touche, non? C'est ça. Alors, même aujourd'hui, je pense à Montevideo des années 30, des années 40, et penser quelqu'un secret qui avait ses lectures, ça me résulte très impressionnant. Et à partir de là, il organise ses stratégies de l'écriture. Ce sont des stratégies de l'écriture, même avec un écart avec le temps, avec un décalage avec le temps. C'est mal connu, mais 25 ans après sa mort, nous sommes ici en train d'écrire sur lui. Il a touché à Ricardo Piglia, il a touché à Antonio, il a touché à Juan José Saer. C'est-à-dire qu'il y a un courant souterrain, non?
Oui, on peut parler aussi de la des circonstances biographiques, non? Onetti a abandonné Montevideo quand il était très jeune. Il s'est marié, il est allé vivre à Buenos Aires. Il a été, et c'est un dat qui est important, et Onetti était pauvre, était très pauvre. Il venait d'une famille, une famille assez pauvre. Il a travaillé dans de différents métiers. Donc c'est une expérience tout à fait différente de l'expérience des autres écrivains du Rio de la Plata. Non? Borges ou Bioy, il appartenait à la classe moyenne, même à la haute classe. Et Onetti, le point de vue d'Onetti, c'est le point de vue de quelqu'un qui a connu la femme, qui a connu le travail matériel. Donc il est arrivé à Buenos Aires de Montevideo, et à Buenos Aires il a connu, comme Juan Carlos disait, il a connu l'expérience de la grande ville et aussi l'expérience de la littérature urbaine. Il a connu Faulkner et il a connu Céline. C'est de ça que semble, je suis absolument d'accord. Et il a connu aussi le tango. Il a l'influence du tango et l'influence de l'écriture de Roberto Arlt, par exemple, parce que les écrivains de Buenos Aires écrivaient comme s'ils ne connaissaient pas la réalité de la vie des gens travailleurs à Buenos Aires. Non? On n'a pas le langage. La langue des pauvres, la langue des travailleurs, on ne voit pas dans l'écriture du Rio de la Plata, excepté dans le cas de Roberto Arlt et dans le cas du tango. La vie populaire, la langue de la vie populaire, on trouve dans le tango, et Onetti a appris beaucoup de tango. Il a toujours, et il a dit, il a raconté toujours l'amour qu'il avait pour le tango. Le tango, c'est une influence pour lui absolument fondatrice, non? Et après, il a écrit son premier roman, Par esta noche, non? Et après, il y a une chose qu'il racontait, c'est que dans les années, au commencement des années 50, a été par des questions de politique, on ne pouvait pas voyager, traverser le Rio de la Plata et voyager à Buenos Aires. Donc il devait rester, pardon, à Montevideo. Il devait rester à Buenos Aires. Et comme il ne pouvait pas aller à Montevideo, il a inventé Santa Maria. Et l'invention de Santa Maria est importante parce que ce n'est pas comme quand Gabriel García Márquez parle de Macondo, c'est comme si Macondo existait déjà. Ce que c'est intéressant dans le cas de Onetti ce qu'il raconte, l'invention de Santa Maria, comme une partie d'un roman. Et je m'exprime. C'est le cas de La vie brève, La vida breve. Dans La vida breve, le protagoniste, Juan María Brausen, qui est quelqu'un qui travaille comme journaliste et comme publicitaire à Buenos Aires, non, il y a un moment quand il invente une ville. Je veux dire, un personnage de Netty, dans son roman, invente la ville de Santa Maria. Et après, quand on lit les contes et des autres romans qui ont place à Santa Maria, il y a une statue de Juan María Brausen, le fondateur. C'est une statue équestre. Non? Donc, le personnage qui a inventé la ville, quand il habitait à Buenos Aires, est devenu le père fondateur. Et même c'est comme Dieu, parce qu'on parle de Brausen comme de Dieu, non? On prie à Brausen. Non? Donc c'est le chemin de l'invention de la ville de Santa Maria. Et c'est le résultat de sa nostalgie, de l'impossibilité de visiter Montevideo, mais même aussi le résultat de le fait de l'invention absolument libre. Non? On décide de fonder une ville. Il a fondé la ville de Santa Maria. Comme les Espagnols fondaient des villes.
Effectivement, cette ville, on dirait qu'elle est, on dirait qu'il ne l'a pas inventée, on dirait qu'il la fréquente, qu'il l'a connue et qu'il l'a décrite en quelque sorte. Et c'est pas une ville qui ressemble aux deux autres, c'est une nouvelle ville.
Oui, c'est absolument nouvelle. C'est absolument nouvelle. C'est pas qu'il a donné le nom de Santa Maria pour. Non, c'est une invention souveraine. C'est comme, je crois que l'influence de Faulkner ici est très importante, parce que vous vous souvenez que dans un des romans de Faulkner, il y a un map de Yoknapatawpha County, non? Et il a écrit en bas du map, il a écrit William Faulkner, sole owner and proprietor. William Faulkner, c'est le seul propriétaire. Parce qu'il a fondé son territoire. Non? Cet acte de fondation, c'est pour moi une des choses fondamentales de l'écriture de Netty. Il a fondé cette ville, il a fondé ce monde.
Et d'ailleurs, il l'a détruit un jour parce qu'il dit qu'elle est devenue trop grande pour lui et il ne sait plus où. Alors, on peut encore parler très longtemps de la ville, mais malheureusement, le temps est limité. Vous avez déjà parlé des personnages. C'est l'autre point important. Ces personnages qui, je ne trouve pas d'autre mot que récurrence, mais c'est mieux que récurrence. Là aussi, c'est comme la ville, c'est des personnages qui se retrouvent, qui se rejoignent, qui s'apparentent, même s'ils n'ont pas de parenté. Et puis avec des noms propres. Carla Suárez, l'autre jour, parlait de son effort pour trouver des noms qui ressemblent à des noms. Et là, c'est pareil. C'est des noms qui ressemblent à des noms et qui, en plus, ont une sonorité, une couleur absolument superbe. Je vous laisse en parler, tous les deux.
Oui, pour l'invention des personnages, c'est comme decía... Allô, oui. Alors, c'est comme disait Cervantes, donner à ces choses nombres altos, sonoros et significantes. No? Après, oui, on a. Moi aussi, j'ai cherché partout les origines des noms, Díaz Grey, les significats, les Brausen, tout ça. De toute façon, je n'ai pas épuisé la chose. Il y aura de nouvelles générations qui vont continuer à chercher des choses, qui peut-être un jour vont trouver la vérité autour de ça. Mais au-delà des noms, c'est le caractère des personnages. Il avait une conception de la vie, et il pensait à la pureté de l'adolescence, et qu'à partir d'un certain moment, la vie commence à nous abîmer. Je pense que c'est une constatation dans laquelle tout le monde peut être d'accord. Et je dirais que c'est une espèce de baroque existentiel, non? Il ne regarde pas directement la mort, mais il regarde de quelle manière parfois la condition humaine, les pulsions de la condition humaine sont plus fortes que les conditions historiques. Ça c'est très important chez Onetti. Et après, il a fait une expérience, c'est quelque chose qu'a dit Antonio aussi à partir, je pense, que de l'expérience de Ricardo Arlt, de la lecture de Arlt, c'était de chercher dans la périphérie de la société. C'est-à-dire qu'il a dit, mes personnages vont travailler dans les cabarets, ils vont travailler dans des journalismes, mais ils ne sont pas stars de la télévision, sinon qu'ils font des petits papiers pour les journaux de Provence. Et il va travailler avec les limites de la prostitution. Et parfois, il a dit, les aventures qui nous attendent vont être le carnaval, que c'est pour la fin de la vie brève, que c'est une théorie de l'existence. Ensuite, ça va être un chantier en déclin. Et la troisième, c'est l'invention d'un bordel destiné à l'échec. Alors, ce sont ça les grandes aventures des personnages de Onetti. Et surtout, une chose qui me semble très importante, surtout à partir de la vie brève, qu'il y a quelque chose avec Manuel de Falla, et surtout avec une vieille chanson qui parle de la vie brève comme un soupir qui s'en va très vite. La chose est très importante, que c'était une leçon de vie, c'est-à-dire que chaque personne il a la possibilité de vivre plusieurs vies. Voilà, et c'est ça. C'est, je pense que c'est dans ce monde qui tient à la destruction. Il dit, bon, mais quand même, on peut se refaire, on peut s'inventer la vie. On a la possibilité de refaire notre vie. On n'est pas destiné simplement à un chemin. On peut essayer plusieurs possibilités. Il y a des moments où on peut faire la chute. Il y a un certain moment où on peut trouver la rédemption. Il y a aussi une vie dans laquelle on peut toucher la chose la plus sublime. Et je pense que les personnages, c'est un appel à la possibilité de vivre plusieurs vies dans les parcours d'une seule vie.
Oui, oui, je suis d'accord. C'est le cas de Juan María Brausen. Quand il est à Buenos Aires, dans la vie brève, et il écoute dans l'appartement prochain, il écoute la vie de cette prostituée, la Keka, non, et il commence à imaginer une autre vie, une vie différente. Non, dans le cas de Netty, c'est aussi très important le fait de systématique. Il a créé une géographie, la géographie de Santa Maria et sa région. Il a créé une topographie très précise, non? On a toujours les mêmes références spatiales, les mêmes roues, les mêmes rues, les mêmes places, les mêmes lieux. Donc, quand on lit Onetti, c'est l'expérience de revenir à un paysage que déjà on connaît. C'est pour ça que lire Onetti, c'est relire Onetti. Parce qu'on doit avoir la perception des choses qui reviennent et des personnages qui reviennent. Personnages qu'on a connus dans une histoire et qu'on rencontre dans une autre histoire. Dans la première histoire, peut-être le personnage était le protagoniste. Dans la deuxième, quand on retrouve le personnage, il est un personnage secondaire, par exemple, non? Donc on a cette idée de la profondeur de l'espace narratif, non? C'est comme dans le cas de Faulkner ou même dans le cas de Proust, quand on voit revenir un personnage qu'on a connu dans la page 200 du premier volume, on se rencontre avec lui et trois volumes après. On a cette sensation de reconnaissance. non, qui est si importante pour le lecteur. Non, et ces personnages, c'est une espèce de... On a créé une topographie, une géographie, et on a créé une démographie. C'est incroyable, parce que quand on rencontre une histoire, on a le sens d'entrer dans son monde complet. Non, et ces personnages, parfois, ces personnages deviennent narrateurs elles-mêmes, ils-mêmes. Non, beaucoup des histoires, la plupart des histoires de Donetti sont racontées par un personnage. Ne sont pas racontées par l'auteur. C'est un personnage qui raconte l'histoire et qui raconte l'histoire de son point de vue particulier. Et cela donne la richesse. Je crois que cette idée, on est-il appris de Faulkner, non? Non, il y a des personnages qui sont narrateurs, non, qui deviennent non seulement des personnages, mais en même temps de fabulateurs. Non, ils deviennent partie du tissu de la narration. Non?
C'est le conteur.
Oui, oui, c'est absolument. Conteur. Absolument, absolument, conteur, vous savez, par exemple, le centre de son monde imaginaire, c'est le personnage central, c'est le docteur Díaz Grey, non? C'est le médecin qui est une espèce d'intermédiaire, parce qu'il connaît tout le monde, et non, il a un rapport avec tous les autres personnages, et c'est un personnage qui toujours, il me souvient en est-il lui-même, non? Parce que c'est un personnage qui presque ne fait rien, seulement écouter et regarder par la fenêtre et voir la vie. Et c'est le centre, et c'est curieux que le centre de son monde soit ce personnage qui est si obscur, non? Si peu important. Non?
On va un peu parler de l'écriture aussi, et vous avez déjà évoqué la musique. Moi, ce qui m'a, parce que c'est au début ça m'avait rien fait, mais après ça m'a fait, c'est cette espèce de notion de savoir utiliser le rythme, la cadence, mais pas seulement dans la narration, de l'adapter au personnage, au fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, que j'ai pas revu beaucoup non plus. Alors ça, c'est la musique. On parlera après aussi des références musicales, parce qu'il a fait de l'intertextualité très en avant. La chanson, je me souviens plus si la chanson, c'est une chanson d'Edith Piaf. Je me souviens plus si c'est tellement prégnant, je me rappelle plus maintenant s'il dit Edith Piaf ou dit pas Edith Piaf, mais c'est comme quand il dit pas. Mais c'est comme quand il cite des tangos. Il y a les vers, mais le tango est là, quoi. Et puis il est tout à fait adapté à l'atmosphère, à la situation, au personnage. Je pense à Junta Cadáveres, le Muñeca Brava, par exemple. Vous pouvez nous en parler un peu. Alors, d'abord, on parle du style, de la musique dans l'écriture.
Oui, oui, c'est une musique absolument différente de quelqu'un d'autre. C'est comme, vous savez, on est ici le cas, je me souviens que Woody Allen disait qu'il y a des auteurs, des artistes qu'on reconnaît immédiatement avec une seule image ou une seule phrase. Par exemple, vous reconnaissez avec une seule image de Buñuel, vous reconnaissez Buñuel. Avec une seule phrase musicale de Thelonious Monk, par exemple, on sait qui joue le piano. C'est seulement Thelonious Monk qui joue comme ça. Et on doit écouter seulement, peut-être même pas une phrase entière, une note. On reconnaît, absolument, on reconnaît le style. Et le miracle, c'est qu'on reconnaît le style, mais ce n'est pas maniériste. Parce que parfois, on reconnaît le style par le maniérisme. Il est naturel toujours. Il est toujours naturel. Mais on reconnaît c'est difficile de définir cette musique parce que quand on lit Onetti, on a la sensation de suivre la phrase dans le moment dont la phrase est écrite. On a la perception du mouvement musical de la phrase. Donc vous lisez la phrase et vous voyez comme il va inventant la phrase dans le fait de l'écriture. On a l'idée, c'est comme dans le jazz, c'est l'improvisation on voit que la phrase est improvisée au moment où on l'écrit. Donc, c'est un miracle. Non, c'est comme un miracle. Parce qu'on a l'idée du mouvement musical de l'écriture. On voit l'écriture progresser, avancer au-delà. Non, c'est le seul cas que je connais dans son écrivain. Et on doit lire, et cela fait qu'on doit lire Onetti d'une façon différente à comme lit autre écrivain en prose. Parce qu'on doit lire parfois, pas comme on lit la prose, mais comme on lit la poésie. Parce qu'on ne peut pas perdre la concentration dans un seul instant. Le moment que vous perdez la concentration, vous êtes perdu.
Ah, je suis tout à fait d'accord. La poésie, elle commence avec le titre souvent. Enfin, presque toujours. C'est des titres qui sont déjà très originaux, sauf lorsque c'est Junta Cadavers. Encore que Junta Cadavers, c'est assez original comme titre.
Non, mais tu as raison. La poésie, elle existe. Dejemos hablar al viento. La vida breve son les situations de Walt Whitman. Surtout dans la vie brève, il y a comme un autre signe de modernité, que c'est l'incorporation d'un bon son. C'est un des premiers romans dans lesquels, pendant qu'on est en train de lire, on écoute des musiques. Il y a trois musiques qui correspondent à la Buenos Aires des années 50, et qu'il y a une espèce de musique de jazz, qu'on peut l'écouter. Les tangos. Évidemment, il a dit plusieurs fois son admiration pour le tango et pour Gardel. Il ne faut pas oublier que aussi les années 40, c'est les années de ces splendeurs de tango à Buenos Aires, surtout avec Aníbal Troil et plein de gens. Et il y a aussi, à partir de tous les transferts de la post-guerre, il y avait tous les quartiers de la España peregrina que on commence à reconnaître, le club espagnol à Buenos Aires, c'était Alberti en Punta del Este, c'était Miguel de Molina en Buenos Aires. On écoute, évidemment, il est là, Miguel de Molina, c'est Café de Chinitas, c'est le Testamento Gitano, il a plein de choses très belles. Et il y a aussi, je pense qu'il y a presque 8 ou 12 références à la chanson populaire française. Et je me rappelle, quand tu vois dans mes bras si petites, par exemple, il y a à partir de personnages français qui sont là-bas, et la possibilité d'écouter aussi la musique de la France entre les deux guerres. Et ça c'est formidable, parce que ça parle aussi de Buenos Aires comme quelque chose de très, très, très important dans l'évolution de la littérature d'Onetti. Et après, de l'écriture, hier, on parlait avec Antonio, surtout, il y a le travail d'orfèvre. Que c'est difficile à dire comment est-ce qu'il a fait ça, que nous rappelait la stratégie de Flaubert, non, d'un travail de la phrase, de donner un ton à certaines musiques qui finalement est irréductible à un autre écrivain. Voilà.
Ce matin, Antonio, vous me disiez que il y a quelque chose dont vous voulez absolument parler, c'est la générosité. Mais je pense que cette générosité, elle n'est pas uniquement humaine, elle est aussi littéraire.
Oui. C'est parce qu'on dit toujours que Onetti était très rare, qu'il est une espèce de misanthrope, non ? Qu'il entrait en colère, que c'était difficile d'être avec lui. Dans mon expérience, et c'est quelque chose que j'aime bien raconter, non ? Dans mon expérience, Onetti a été une des personnes les plus généreuses que j'ai rencontrées dans ma vie. Et il a été si important. Je vous racontais ma dette avec lui, non, de mon apprentissage comme écrivain. Non, mais dans mon cas, il a été si généreux avec moi. J'étais un jeune écrivain qui venait de publier un roman. Et il a lu ce roman avec pas de condescendance. Il l'a lu avec un respect absolu, comme il lisait beaucoup de autres écrivains jeunes. Dans cette âme-là, pour ma génération, des personnes là, comme je vous disais, comme Camilo José Cela, pour cette génération de la vieille garde, nous étions comme des ennemis, non? Parce que nous étions les parvenus, non? Nous étions les jeunes parvenus, non? Qui venaient disputer le lieu qu'il avait appartenu à eux par des générations, non? Et on était qui était un exilé en Espagne, et il a été si généreux. Je me souviens que en 1987, je venais de publier mon second roman, L'hiver à Lisbonne, qui a une absolue influence d'Onetti, de l'écriture, absolue. Et un autre écrivain, j'habitais, à cet endroit-là, j'habitais à Grenade, je n'habitais pas à Madrid encore, et un écrivain qui était Félix Grande, qui était un grand ami d'Onetti, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, tu sais quoi? J'ai visité Onetti et il avait ton roman près de son lit. Et il m'a dit, tu dois lire ce roman. Non? Et pour moi, c'est une émotion incroyable. Non? I mean, mon maître avait recommandé ce roman que j'avais écrit sous l'influence absolue d'Onetti. Non? Et trois ans après, je suis allé à Madrid pour une lecture, pour un hommage à Bioy Casares. Non? Il y avait un hommage public à Bioy Casares à Madrid, et à la fin de cet événement, une femme, une dame, a venu vers moi. Elle m'a dit, je m'appelle Dolly, je suis Dolly, je suis la femme de Juan Carlos Onetti. Et il m'a demandé de vous dire de venir chez nous visiter. Vous pouvez imaginer l'émotion, non? C'était Dolly, c'était la dédicataire de la cara de la desgracia, non? Et il m'a invité à le visiter, et je l'ai visité, et après, j'ai publié un autre roman qui est le Chevalier polonais, qui ici en France on appelle le Royaume de Voix. Et j'ai reçu une critique terrible dans El País, non? C'était destructive, absolument destructive. La critique, c'est... Et trois ou quatre jours après, un ami m'appelle et me dit, est-ce que tu as lu le journal aujourd'hui? Et je dis non, non. Et il y avait un article d'Onetti écrivant sur mon roman, une défense de mon roman. Non? Donc, c'est très difficile de rencontrer un exemple comme ça. Et il l'a fait non seulement avec moi, mais avec d'autres écrivains espagnols ou latino-américains. Non? Et je crois que c'est important de faire témoin de cette chose, non? Parce que c'est si rare, non, qu'un écrivain soit généreux avec des autres écrivains et pas avec condescendance. Il ne jouait ses rôles si irritants du vieux maître, non? On parlait de, et on disait, on parlait de, ah, je vais visiter le vieux, non? On parlait du vieux, on faisait une espèce, mais c'est pas vrai parce que il n'acceptait cette idée de la hiérarchie, non? Il ne parlait comme un vieux maître. Il parlait comme quelqu'un qui était si passionné sur les livres comme toi. Non? C'est une espèce de camaraderie. Non? Et une chose que je n'ai jamais trouvée dans un autre écrivain, jamais dans ma vie.
J'avais oublié de parler de quelque chose qui me paraît important, c'est le journalisme. Puis tu viens de parler d'El País, des journaux et du journalisme. Il a été journaliste et je crois que c'est quand même quelque chose qu'on trouve dans l'écriture, sans doute, puisque écrire du journalisme, contrairement à ce qu'on croit dans beaucoup d'endroits, c'est plus que formateur, c'est complémentaire, aux États-Unis et chez vous, en Amérique latine. C'est une activité qu'il a accaparé une bonne partie de sa vie. Et là aussi, il a été généreux, il a été reconnaissant, parce que dans les personnages, dans les histoires, et même, je crois, un peu dans son style. Et puis alors, peut-être, deuxième chose, le roman policier, c'est de la consommation ou ça peut être de l'inspiration? Parce que quand on lit Dashiell Hammett, Jim Thompson, Chandler, il en reste quelque chose, non?
Il était passionné des romans policiers. Ouais. Dans son appartement, sa librairie était composée presque exclusivement de romans policiers, de polars. Oui, le journalisme, il était le directeur de Marcha, non? Et les articles qu'il écrivait à Marcha, il y avait beaucoup d'une déclaration esthétique. Il a développé une poétique dans ses articles, et c'était une poétique anti-régionaliste, si l'on peut dire comme ça. Il y avait ce débat sur la littérature avec Racine, non, de chercher le élément de uruguayanisme, non, c'était la passion des origines, non, le gaucho, le spécifique, les choses spécifiques de la région, non, écrire avec cette passion régionaliste, non, et Onetti a toujours défendu le contraire, non. Il a fait la défense d'une écriture pas régionaliste, pas folklorique. Et quand vous comparez le livre d'Onetti avec presque quelques autres écrivains d'Amérique latine, vous vous demandez où est-ce que cet homme habite? Parce que les éléments régionaux ou naturalistes ont disparu. Il y a une espèce de en temporalité, une espèce d'absence de précision géographique, une espèce d'universalité naturelle. Non? Es-tu d'accord?
Oui, je suis d'accord. Surtout quand tu parlais de l'influence, j'essayais de trouver finalement il n'a pas écrit un polar. Non? Alors, Si on pense que Macbeth c'est un polar féministe, par exemple, tout rentre, non? Alors, je pense que il sait le polar dans la même manière qu'on peut voir les séries Netflix, House of Cards et tout ça. On regarde parce que ça existe, parce que ça attire, et on sait, par exemple, comme information, que derrière les Simpsons, il y a 25 écrivains qui font les... C'est-à-dire que c'est une production industrielle. Non? Mais il faisait bien la part des choses. Il pouvait lire le Septimo Circulo, tous les romans anglais, tout ça. Mais au moment de se mettre à l'écriture, il suivit Stéphane Dédalus. Silence, exil et astuce. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le maître sont... Voilà, c'est Céline, Flaubert, Faulkner, Walt Whitman. Voilà. C'est-à-dire, c'est regarder bien la chose. Après, pour le reste, il faut vivre, il faut voir qu'est-ce qu'ils font les choses. Et surtout, il admirait, je pense que c'était la même chose de Borges, c'était la rhétorique du roman policial. Présentation, mystère, enquête et résolution. C'est-à-dire que c'est une obligation de laboratoire ou d'atelier. Et je pense que oui, ça, il tenait à la chose. Mais pour le reste, je pense qu'il avait l'ambition d'autres choses. Ses objectifs, c'était Faulkner, Ulysses, Céline. C'est pour ça qu'il travaillait, à mon avis.
Je crois que ce qu'il prend du polar, c'est la poétique du mystère. Non? Il y a toujours un mystère qu'on doit trouver. C'est comme dans Los Adios, non? Les adieux. Non? Il y a un mystère dans le centre de cette histoire. Ce n'est pas un mystère policier, mais même c'est un mystère. C'est comme le cas de Jacob et l'autre. Non? Il y a toujours quelque chose qu'on doit trouver. Il y a un mystère qu'on doit dévoiler. Non? Je crois que c'est l'influence principale, c'est une influence, si l'on peut dire, poétique.
C'est ce qui fait la différence entre le roman noir plutôt... et le roman policier. Oui. Justement, non, mais... C'est difficile de tout dire en peu de temps, mais j'aurais voulu aussi qu'on parle cette question qui m'est souvent posée, mais à laquelle je sais difficilement répondre. Comment commencer à lire Aonetti ?
Oui, c'est très important. Oui. C'est une question qu'on m'a demandée parfois et que moi-même, je me suis demandé parce que on veut devenir un militant de la littérature. Non, je me sens c'est une espèce de militance, non ? Parce que c'est un devoir de gratitude. Donc, je crois qu'on doit, je ne sais pas si Juan Carlos est d'accord avec moi, on doit commencer par des contes plutôt que par des romans, et même aussi on doit commencer par des histoires qui sont séparées, qui n'appartiennent pas au grand système ou au grand cycle de Santa Maria. Par exemple, Les Adieux. Los Adios est un roman, est une nouvelle. C'est une espèce de chef d'œuvre. Pour moi, je crois que la nouvelle, c'est le vrai lieu de la perfection narrative, non ? Parce que le roman est trop long, mais la nouvelle a tous les avantages du conte et aussi tous les avantages du roman, non ? Donc, dans la nouvelle, le cas de une des nouvelles les plus parfaites que je connais, c'est Los Adios. On peut commencer pour ça. Et on peut commencer par des contes, non, isolés. Et après, on découvre les connexions. On découvre que chaque histoire appartient dans son grand projet, qui est le projet de Santa Maria. Mais on découvre lentement, avec très lentement. Non ?
Oui. Alors, mon expérience, c'était pareil. Ça a commencé pour les nouvelles, surtout la média distance, tu vois, les nouvelles de 15-20 pages. Mais je pense que c'est mieux commencer, par exemple, on va à YouTube et on cherche Niebla de Riachuelo. Voilà, on l'écoute bien. Après, on prend un bon whisky. Voilà, c'est une préparation corporelle. On rentre. S'il y a quelqu'un qui clope, voilà, pourquoi pas. Et voilà, et on rentre déjà dans un état douzième. Et à partir de là, la lecture devient limpide, transparente. On est amené dans un univers de beauté. Et voilà, et la beauté a un prix. Il faut payer. Ce n'est pas plus belle la vie. Ce n'est pas voilà. Pour accéder à les choses importantes, il faut pour entrer au ciel, il faut faire des efforts. Non, dans chaque discipline, même pour maîtriser un système informatique, faire des efforts. Non, la vie est difficile. Pourquoi honnêteté doit être facile? Non.
Je crois que ce que je disais d'abord de la musique, non ? Quand on lit une phrase, on doit la lire deux fois s'il faut. On doit revenir, c'est comme la musique. On écoute une chanson une seule fois. On n'écoute pas une symphonie une seule fois.
Bien sûr. Bien sûr.
On doit relire. Et si, dans tout cas, tout livre... C'est un écrivain anglais disait que qu'est-ce que c'est la littérature ? La littérature, c'est cette chose qu'on doit lire au moins deux fois. On doit lire au moins deux fois. Parce que une seule fois, on commence à savoir comment un livre a été écrit, un livre ou un conte, quand on lit la deuxième fois. Parce que c'est seulement dans ce moment quand on se rend compte de la véritable forme de livre. Non? Dans le cas de Netty, c'est spécialement et nécessaire. On doit lire au moins deux fois.
Justement, j'en profite parce que j'ai toujours eu un doute sur une phrase qu'il aurait prononcée, mais je n'ai jamais retrouvé une source sur cette, qui revient souvent. Il aurait dit que la littérature, c'est raconter la vérité avec de beaux mensonges. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui,
je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a vraiment écrit ou dit ça? On voit souvent cette phrase apparaître, et je n'ai jamais trouvé une déclaration ou un entretien. Bon, il en a fait. Il faut dire qu'il a fait énormément d'entretiens. Hein, alors ça, c'est les œuvres complètes. Je les ai portées parce qu'il manque un tome, hein, il y en a trois, où il y a, je crois, tout, et il y a une introduction de Antonio. Il y a les romans, les contes, et puis après tout ce qu'il a écrit, les articles, les entretiens qui sont considérables. Et en parlant d'entretiens, je voudrais aussi en profiter pour faire un hommage à quelqu'un qu'on aurait pu inviter ici, qui est décédé cette année, c'est Ramón Chao, qui a fait un livre remarquable, je crois que vous serez d'accord avec moi, qui est tiré d'une émission qui malheureusement est introuvable. J'ai demandé à Lucille d'essayer de la trouver pour faire, vous savez, un poste de télé où on pourrait la suivre toute la journée, là, comme on fait dans les expos. Sur FR3, enfin je crois que c'était pas encore FR3, un truc qui s'appelait Océanique. Et il y a, je crois que Antonio, ou peut-être toi, vous avez pu la voir cette émission.
Oui.
Moi, j'ai jamais, enfin, je l'ai vue, mais à l'époque, j'étais pas au Netien et je me rappelle de très mal. Enfin, j'ai lu le livre.
Oui, oui. Mais l'émission est incroyable parce que on voit réellement qui Onetti était. Dans cette émission, non? Ramón Chao a été absolument sensible à la personnalité d'Onetti. Onetti l'a reçu dans sa maison et il a parlé avec lui avec une liberté et avec une sens de l'humeur absolue. On montre comment Onetti était, non? Parce que c'est facile de faire de lui un personnage, non? Un personnage et de le réduire à des anecdotes, non? Et les anecdotes littéraires sont toujours dégradantes. Non, je n'aime pas les anecdotes sur écrivain, non, parce que. Mais et on doit comprendre que c'était un homme, un écrivain absolument plein d'humanité. Il ne voulait jamais devenir un personnage. C'était sûr si quand on voit un écrivain ou quelqu'un devenir un personnage, non. C'est désagréable. On voit. Non, et il était lui-même. Il était lui-même toujours. Je me souviens que l'écrivain V.S. Naipaul disait qu'à la fin de sa vie, Borges avait devenu son propre entretien. Parce qu'on l'avait fait tant d'entretiens et d'interviews qu'il avait devenu le personnage de cet entretien. Non? Ce n'est pas le cas avec Onetti. Non. Et c'est important de raconter ça.
Absolument. Et en plus, dans ses entretiens, il ne se répète jamais. Il parle toujours de choses différentes. Il ne se répète pas. Enfin, il parle toujours de la même chose, puisqu'il parle de son œuvre, de ses livres. Mais c'est toujours une façon différente. Alors, avec des silences, cette émission. Moi, cette émission, elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a permis de comprendre. Moi, j'avais déjà lu. Mais je n'avais pas bien compris. Et cette émission m'a permis, en l'écoutant, de comprendre certaines choses, de situer certaines choses. Mais ce qui est impressionnant, c'est les silences. Le gars lui pose la question et il doit y avoir au moins 20 secondes, quelquefois, c'est énorme. 20 secondes, il a sa cigarette, il fume, il réfléchit, il ne dit rien, puis il commence à parler. L'autre ne sait pas s'il va continuer ou s'il va s'arrêter. Et c'est d'ailleurs, c'est un peu son écriture. Quoi. C'est comme ça qu'il est. Alors, pardon, vas-y.
Non, je viens de penser que vous mentionnez la cigarette, non? Le rythme de ce mouvement quand il fumait et quand il parlait, c'est presque le rythme de l'écriture. Je crois ça, non? Mais c'était cette espèce de lentitude.
Alors, vous êtes là parce que tu as fait une thèse sur Onetti. Vous avez fait je ne sais combien de préface d'introduction à des éditions de l'œuvre d'Onetti, mais vous avez aussi votre œuvre. Et je crois que ça serait intéressant de parler chacun. Alors, rassurez-vous, je sais qu'il y a eu une rumeur stupide qui a dit que ni Antonio Muñoz Molina ni Juan Carlos Mondragón allaient signer leur livre. Ils vont signer leur livre à la fin de la rencontre. Ça, c'est acquis. Donc, je voudrais que vous parliez chacun d'un livre où vous vous sentez, où vous êtes senti, ou qui vous paraît le plus onétien dans votre œuvre.
Alors, oui. Je veux parler d'un livre secret qui jamais va être traduit, que je l'ai fait pour moi, qui s'appelle Night and Day, et que j'ai piqué les titres de la chanson de Cole Porter, qui parle d'une obsession, non? J'écoute seulement une voix qui me dit. Toi, c'est l'obsession, et j'ai essayé de sortir de l'obsession onétienne, et de la même manière qu'il y a des écrivains qui rencontrent les voyages pour la campagne ou un voyage ou quelque chose comme ça. Et c'est mon narrateur raconte un journal de la lecture de la vie brève. Et voilà, et c'est le sujet du roman comme sujet, pourquoi pas. C'était la lecture de la vie brève, que je pense que c'est le roman le plus important de Onetti. Et à partir de là, j'ai commencé à explorer autres possibles. On arrive à un certain âge que finalement on pense seulement au niveau de relecture, non? Et on commence à voir les choses qui vont nous accompagner dans les années qui restent pour les voyages. Et je pense qu'il va être toujours avec moi pour les lire, non? C'est ça.
Oui, dans mon cas, l'influence a été presque toujours présente. Il y a des éléments dans mes romans qui viennent directement d'Onetti. Par exemple, il y a une partie de mes histoires ont lieu dans une ville qui s'appelle Machina, qui est semblable à ma ville natale, Úbeda, mais ce n'est pas comme ça. Non, c'est une création personnelle. C'est une espèce de maquette à échelle du monde, non? Parce que cette idée de que vous faites une espèce de jeu, vous créez un espace, une ville, c'est comme si vous créez une maquette, un modèle, non? Et vous avez les bâtiments, vous avez la place, vous avez le lieu, et vous pouvez mouvoir vos personnages avec liberté et avec familiarité entre ces lieux, non? C'est une influence très directe d'Onetti. Et il y a des autres choses, par exemple dans mon roman El Jinete Polaco, à la fin du roman, il y a une espèce de prière, quand le protagoniste fait une prière pour demander à Dieu ou quelqu'un de sauver son amour, de permettre que l'amour continue éternellement, non? Et il prie à Dieu et il prie à Brausen. Et parfois, des traducteurs m'ont demandé qui est ce Brausen. Parce qu'on prie à Brausen, non? On prie à Dieu, on prie au pouvoir supérieur, non? Donc on prie aussi à Brausen, non? Et c'est toujours, je crois que l'influence principale sur mon travail a été une espèce de le regard, le soin qu'on prie à l'écriture de chaque phrase. L'attention, faire attention à des choses, de petites choses fondamentales, non? Une espèce de tendresse aussi. Parce qu'Onetti, on dit qu'il est obscur, qu'il est triste, mais il est toujours plein de tendresse vers l'innocence, vers le désir, non? Donc cette tendresse, je crois qu'elle est devenue une partie de moi-même, non? Je crois que j'écris toujours avec l'influence, même comme j'écris presque toujours sous l'influence de Proust, non, qui sont peut-être mes deux modèles d'écriture. Non, on peut pas dire ce livre a été influencé parce que tous ont été influencés par Onetine.
Bon, ben, on va presque terminer. On va, comme le public très majoritairement aime entendre parler en espagnol, vous allez lire un passage d'un livre justement où il est question. Ah, c'est toi qui lis.
Oui, oui.
Ok. Mais c'est un livre d'Anton. Oui. Ça, c'est un modèle de générosité. Juan Carlos va lire un livre de Antonio.
Non, c'est lui qui va lire.
Ah bon, je croyais que tu...
Non.
Bon. Alors, vous pouvez lire. Puis vous serez obligé de me suivre pour la lecture en français.
Non, en français.
Je vais lire un passage dans ce roman, Comme la sombre qui se va, comme l'ombre qui s'en va, où je raconte mon rencontre avec Onetine. Après ce que je vous disais d'abord, sur l'hommage à Bioy Casares, quand Odoli est venu me demander de venir chez eux, et je raconte ici mon rencontre personnelle. No? Onetti estaba en una habitación pequeña, desnuda como una habitación de hospital, tendido de costado en una cama abatible, como torcido, apoyado inestablemente en un codo, con un cigarrillo en la mano. Las piernas flacas bajo los pantalones de un pijama azul claro de enfermo, con unas zapatillas azules, los tobillos morados, el vientre hinchado sobresaliendo de la chaqueta medio desabrochada del pijama. Tenía unos ojos grandes y saltones y una barba escasa y no llevaba gafas. En su cara estaba la hinchazón amoratada del alcohol. Sus manos eran muy largas, torcidas, hábiles tan solo para sostener cigarrillos, vasos, libros, mecheros. Dolly me dijo que ahora al menos solo bebía vino, mezclado con agua. Había un vaso de vino en una mesita articulada como de hospital al lado de la cama. Había además libros, hojas sueltas de periódicos, recortes, un cenicero con colillas, uno o dos paquetes de tabaco, una botella de vino a granel, un vaso de agua, frascos de medicinas. La ventana, estrecha y alargada, a la que Onetti daba siempre la espalda, se abría una terraza llena de macetas y al cielo de Madrid, sobre esa torre de ladrillo rojo en la Avenida América, en la que se encendía de noche el letrero de Iberia. Yo le conté lo difícil que era encontrar en Granada sus libros cuando era estudiante en los años 70. La primera vez que vi una edición de La vida breve, o cuando robé el astillero en una casa en la que estaba de visita. Se acordó de la felicidad de salir de una librería con una novela recién publicada de Faulkner, de ir por la calle leyéndola y chocando con la gente. Extraía los cigarrillos del paquete con sus dedos largos y flacos como pinzas, amarillos de nicotina, y los encendía con un mechero desechable, apoyándose en el codo. Daba caladas hondas y no echaba en el cenicero la columna de ceniza que iba formándose poco a poco y que se desmoronaba sobre la pechera del pijama, que él sacudía con descuido. Era asombroso que no hubiera quemaduras ni en la cama ni en la tela del pijama, que no se incendiara todo alguna vez. Dolly me dijo que el miedo a que él se durmiera con el cigarrillo en la mano o en la boca y provocara un incendio no la dejaba descansar por las noches. Hubiera querido atreverme a contarle a Onetti lo que me había pasado contigo solo unas horas antes. Era de él de quien había querido aprender yo a escribir sobre el deseo y la ternura, sobre la maravilla y la gratitud de alcanzar lo que no se había imaginado, lo que no se sabía que existiera. Le cité de memoria un pasaje de La cara de la desgracia que ahora aludía secretamente a ti. Y tuve de pronto lo que no había merecido nunca, su cara doblegada por el llanto y la felicidad bajo la luna. Eso era para mí Onetti, más que la sordidez o la amargura, el éxtasis de la belleza o la plenitud inesperada, la declaración de amor de Larsen en el astillero. Ahora sí, ahora respiro. Mirarle y decirle cualquier cosa. No sé lo que me tiene reservado la vida, pero este encuentro ya me compensa. la veo y la miro. Voy a leer el final de esto. Ya cuando me iba a despedir, le dijo a Dolly que me trajera uno de los libros más valiosos que tenía, el primero de los dos tomos monumentales de la biografía de Faulkner de Joseph Blotner. Dolly le preguntó que por qué no me dejaba los dos, para estar seguro de que vuelve a traer uno y llevarse el otro. Pero pasó el tiempo y no volví. El segundo tomo me lo regaló Dolly después de su muerte. Cuando nos despedíamos, Onetti me apretó muy fuerte la mano, incorporado a medias, de costado, con un vigor inesperado en sus dedos tan débiles, y me dijo: es lindo sentirse amigo.
Alors, le roman s'appelle « Comme l'ombre qui s'envoie » et la traductrice, c'est Laure Guy Bataillon.
C'est Philippe Bataillon.
Pardon ?
Philippe, ah, Philippe Bataillon.
Ah, mais là, il y a été écrit traduction de... Le...
Non, mais c'est la traduction de la citation.
La ah, traduction de la du... citation de la... Du... D'accord, c'est Philippe Bataillon. Enfin, ça reste dans la famille, mais c'est... non, dynastie d'excellents traducteurs. Onetti était dans une petite pièce nue qu'une chambre aussi nue qu'une chambre d'hôpital, allongé sur le côté dans un lit abattant, comme recroquevillé, mal appuyé sur un coude, une cigarette à la main, ses jambes maigres dans un pantalon de pyjama bleu clair de malade, avec des pantoufles bleues, les chevilles violacées, son ventre gonflé, ressortant sous la veste de pyjama à demi boutonné. Il avait de gros yeux saillants, une barbe rare et ne portait pas de lunettes. Son visage était bouffi et violacé par l'alcool. Ses mains étaient longues, tordues, incapables d'autre chose que de tenir une cigarette, un verre, un livre ou un briquet. Dolly m'a dit qu'à présent, au moins, il ne buvait plus que du vin coupé d'eau. À côté du lit, sur une petite table d'hôpital inclinable, il y avait un verre de vin. Il y avait aussi des livres, des feuilles de journal séparées, des coupures de presse, un cendrier avec des mégots, un ou deux paquets de cigarettes, un litre de vin, un verre d'eau, des flacons de médicaments. La fenêtre étroite et allongée à laquelle Onetti y tournait toujours le dos, ouvrait sur une terrasse pleine de pots de fleurs et sur le ciel de Madrid, au-dessus de cette tour en briques rouge de l'avenue de l'América, de l'avenue de América, où la nuit s'allumait la publicité d'Iberia. Je lui racontais combien il était difficile de trouver ses livres à Grenade lorsque j'étais étudiant, dans les années 70. La première fois que j'avais vu une édition de La Vie Brève, ou quand j'avais volé le chantier dans une maison où j'étais en visite. Il se rappelait le bonheur de sortir d'une librairie avec un roman de Faulkner, récemment publié, de marcher dans la rue en le lisant, se cognant contre les passants. Il sortait les cigarettes du paquet avec ses doigts longs et maigres comme des pinces, jaunes de nicotine, et les allumait avec un briquet jetable, appuyé sur un coude. Il aspirait de longues bouffées et ne mettait pas dans le cendrier le cylindre de cendre qui se formait peu à peu, puis tombait sur le devant de son pyjama qu'il secouait négligemment. J'étais étonné qu'il n'y ait pas de brûlure sur le drap ou le tissu du pyjama, qu'il n'ait pas mis le feu un jour ou l'autre. Dolly m'a dit que la crainte qu'il ne s'endorme une cigarette à la main ou aux lèvres et ne provoque un incendie l'empêchait de se reposer la nuit. J'aurais voulu oser raconter à Onetti ce qui m'était arrivé avec toi. Quelques heures plus tôt, de lui j'avais aimé apprendre à écrire le désir et la tendresse, l'émerveillement et la gratitude d'obtenir ce qu'on n'avait pas imaginé, ce dont on ignorait l'existence. Je lui ai cité de mémoire un passage du Visage du malheur qui désormais faisait secrètement allusion à toi. Merci. Non, qué pena. J'eus soudain, la citation, j'eus soudain deux choses que je n'avais jamais méritées. Son visage ployant sous les larmes et le bonheur à la lumière de la lune. Pour moi, Onetti, c'était de la plénitude c'était cela, plus que le sordide et l'amertume, l'extase de la beauté ou de la plénitude inattendue. La déclaration d'amour de Larsen dans le chantier. Je suis désolé, mais ça, je suis un peu ému. Maintenant, oui, maintenant, je respire. Vous regardez et vous dire des choses sans importance. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais déjà, cette rencontre me dédommage de bien des choses. Je vous vois et je vous regarde. Et alors, la partie qui est en plus, la fin, mais qu'il faut lire, bien sûr. Il a dit à Dolly de m'apporter l'un de ses livres les plus précieux, le premier tome de la monumentale biographie de Faulkner par Joseph Blotner. Dolly lui a demandé pourquoi pas les deux, pour être sûr qu'il reviendra pour me rapporter l'un et emporter l'autre. Mais le temps a passé et je ne suis jamais revenu. Le second tome, Dolly me l'a offert après sa mort. Au moment de partir, Honnête, il m'a serré la main très fort, se redressant à demi dans son lit sur le côté, avec une vigueur inattendue dans ses doigts, si faible, et il m'a dit « C'est beau de se sentir en amitié ». Donc, vous avez quelque chose à ajouter ? Non ? On est désolé, on n'a pas le temps de répondre à des questions, mais vous allez pouvoir, et puis je pense que c'est peut-être pas nécessaire, vous allez pouvoir les rencontrer, discuter avec eux. Je vous répète que si vous voulez en savoir un peu plus, c'est peut-être pas aussi profond et beau que ce que ça a été ce matin avec Antonio et Juan Carlos, mais il y a le film... Nunca leía Honnête. Vous allez voir d'ailleurs, c'est assez rigolo de découvrir qui a dit ça. Ils sont là donc pour signer leur livre. Ils vous attendent. Merci.